Je suis avec Philippe Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Genève, mais dans le cadre du Festival du film francophone de Bienne, où votre film Nouveau Départ est présenté. Vous étiez récemment à Angoulême. Alors, il me semble déjà le public biennois piaffe d'impatience de vous rencontrer pour ce film qui est une comédie romantique qui vous a été suggérée par vos producteurs, si je ne me trompe pas, d'après un film argentin, El Amor Menos Pensado.
Oui, absolument. Bien prononcé en espagnol. Quand il est sorti en France, le film s'appelait Retour de Flamme. Les producteurs avaient pris une option sur les droits de remake de ce film.
Facilement.
Ça, je ne sais pas. Oui, une option, voilà. Et j'ai vu le film, le sujet m'a vraiment intéressé parce qu'il me parlait. On parle de ma génération, de gens qui sont en couple depuis très longtemps, qui ont des enfants grands. Et puis finalement, je me suis dit que j'avais envie de faire une comédie sur le couple, une vraie comédie sur le couple, en gardant uniquement le point de départ du film, c'est-à-dire le départ du dernier enfant qui part faire ses études à l'étranger et le couple qui se retrouve en tête à tête.
Le syndrome du
confronté nid vide. Au syndrome du nid vide, exactement.
Et justement, vous avez deux acteurs qu'on voit dans des registres plutôt, pour l'un, comme Franck Dubosc, comique. Et là, vous avez un petit peu cassé, surpris le public en inversant. Lui, il est très contenu. Est-ce que c'était voulu aussi que ça soit un petit peu déstabilisant pour le public de le retrouver comme ça face à Karine Viard?
Ça l'a surtout déstabilisé, lui, quand je lui ai proposé le film. Il m'a dit, mais c'est pas moi qui fais rire dans ce film. Je lui ai dit, si, tu feras rire, mais je veux surtout qu'on s'attache à toi. Je veux surtout qu'on s'attache à ce couple, à cette famille. Il y aura des situations de comédie, mais je veux avant tout que ce soit réaliste et que ce soit la vraie vie, quoi.
Et est-ce que vous avez déjà écrit en pensant aux comédiens?
Non, je ne fais jamais ça. Je ne fais jamais ça parce que c'est une possibilité de se brider si on fait ça, parce qu'on commence à présumer de ce que vont vouloir faire les acteurs ou ne pas faire les acteurs. Je préfère écrire des personnages qui soient cohérents, qui tiennent la route. Et quand j'estime que le scénario est terminé, je propose aux acteurs. Ensuite, j'écoute ce qu'ils ont à me dire au sujet du film et du scénario et des personnages. Mais j'essaye de pas écrire pour des acteurs.
Vous écrivez à quatre mains, comment cela fonctionne?
Alors j'écris depuis un petit moment maintenant avec ma co-scénariste Maria Pourchet. Et effectivement, on écrit à quatre mains. On parle beaucoup. Sur les thèmes qu'on veut aborder. Alors là, l'idée, c'était pas de faire une comédie exhaustive des situations auxquelles les couples sont confrontés dans la vie. Non, on voulait juste braquer notre projecteur sur ce couple-là avec cette histoire qui leur arrive et leur façon aussi de la gérer et de l'appréhender en fonction de leur caractère. Et ensuite, on écrit parfois tous les deux face à un ordinateur où de temps en temps on se dit tiens, toi pars avec ce groupe de séquences et puis on se renvoie la balle en affinant.
C'est une émulation commune. Ouais. Vous êtes à la fois scénariste, réalisateur, aussi comédien. Ouais. Parmi toutes ces casquettes, il y en a une qui est à votre préférence. Parce que là, vous apparaissez aussi dans vos films.
Oui. Pour moi, c'est toujours faire du cinéma et raconter des histoires. Alors, de quel côté et par quel vecteur, c'est un peu différent. Mais j'ai la chance de faire les trois. Si on me demandait vraiment de choisir, si j'étais obligé de choisir, je dirais... J'aimerais continuer à faire des films parce que c'est ma passion et non pas que le jeu soit pas ma passion non plus, mais réaliser des films c'est créer un monde à partir de rien. Voilà, tant qu'on a la chance de pouvoir le faire, on peut pas s'arrêter.
C'est un privilège.
Ouais.
Philippe Lefebvre, là, vous avez mentionné les deux comédiens principaux. Il y a également un couple assez truculent qu'on aimerait voir plus longtemps. C'est François Berléand et Ariel Semenoff.
Oui.
Ils vous ont inspiré, j'imagine.
Moi, je connais très, très bien François Berléand pour avoir écrit le premier film pour lequel il a été nommé au César du meilleur acteur. C'était Mon idole de Guillaume Canet. Ensuite, j'ai réalisé mon premier long métrage avec François Berléand dans le rôle principal. Et depuis, j'ai beaucoup, beaucoup tourné avec lui. Et je ne m'imaginais pas faire un autre film sans au moins une apparition de François Berléand. Je pense qu'il m'en aurait voulu. Et ce n'est pas pour ça que je lui ai proposé, c'est que vraiment, c'est un acteur de comédie extrêmement rare. Et je savais que la confrontation avec Franck Dubosc allait être détonnante.
Et peut-être déstabilisante un peu pour Franck Dubosc, non? Parce que François Berléand, quand il n'est pas filmé, il peut être en roue libre, il peut vraiment être imprévisible. Alors après, quand il est face à la caméra, qu'on dit tourner, il est vraiment très professionnel. Mais pour l'avoir déjà rencontré plusieurs fois, c'est un petit peu un cabotin.
Oui, c'est-à-dire que... Alors, il n'avait qu'une scène dans mon film, et il n'avait qu'une journée de tournage. Il est arrivé tellement en retard que je l'ai sorti du taxi et je l'ai posé sur sa chaise sur le plateau. C'est-à-dire qu'il a tourné avec ses vêtements. Il n'est pas passé, il n'a pas eu le temps. Il est arrivé en râlant, en disant qu'il y avait des embouteillages. François, quoi, je le connais par cœur. Et je le cadre assez bien. Alors... Et souvent, je dis aux jeunes acteurs qui tournent avec François Berléand, faites attention parce que lui, il déconne entre les prises, mais au moment de l'action, il va être impeccable. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par lui parce que vous allez vous faire avoir. Et bon, Franck a de la bouteille, donc, et Ariel Semenoff aussi. Donc ils ne se sont pas laissés déstabiliser.
Philippe Lefebvre, vous avez mentionné au début de l'entretien qu'on vous a proposé, d'après le film argentin, mais vous n'avez gardé qu'en fait l'intrigue initiale, tout le reste, vous avez créé de bout en bout.
Oui, absolument tout. J'ai gardé la première scène de l'aéroport.
L'adieu
au fils. et puis après, on a tout réinventé. Alors non pas parce que le film argentin n'était pas bien, c'est juste qu'en fait, on a totalement oublié... Le reste de l'histoire, on savait où on voulait partir, on connaissait bien nos personnages et on les a laissés vivre avec la principale difficulté de toujours garder un équilibre entre les deux points de vue et d'Alain et de Diane sans perdre la trace de l'un ou de l'autre. C'était la grande difficulté, ça, de garder l'équilibre. Et puis aussi parce que le film argentin était un peu une théorisation du couple. Ça parlait beaucoup et moi je voulais que ce soit
moins bavard,
pas moins bavard, mais beaucoup plus comédie déjà, beaucoup plus comédie. Même si je savais que je voulais des moments d'émotion, notamment avec le bébé à naître, qui n'est pas du tout dans le film argentin. Je voulais recentrer sur la famille, en fait, sur le père, la mère et les deux enfants.
Par rapport au père et la mère, le père vit bien sa cinquantaine. Il est d'ailleurs pianiste concertiste. On verra que ça a quand même une incidence sur son jeu au bout d'un moment. Mmh. Mais c'est la femme qui est vraiment... malmenée par son âge et puis surtout par la société. Elle est dans un milieu de la presse écrite où en fait le jeunisme est prédominant et on lui fait sentir qu'il faut qu'elle se mette un peu à la pointe parce que sinon elle est au placard. Ça explique peut-être sa crise.
On découvre Diane au moment où au boulot elle est un peu placardisée. Alors on ne lui fait pas sentir qu'il faut qu'elle soit à la pointe. En fait, dans ces milieux-là, insidieusement, vous êtes placardisé parce que vous sortez moins que les autres, vous êtes donc moins au fait des tendances,
Elle n'est quand même pas mise dans les groupes.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, insidieusement, elle est devenue à part, en fait. Et puis, alors, ça, c'est symbolisé par les groupes, parce que les groupes de discussion, les groupes WhatsApp, tout ça. Parce que maintenant, ça a pris une place tellement, tellement importante dans nos vies qu'on ne pouvait pas faire l'économie de cette mention-là. Mais ça, plus...
La promotion de son collègue.
Un poste qu'elle convoitait et qu'elle n'a pas eu. Et puis, les premiers symptômes de la ménopause. Plus le départ du dernier fils. Il y a des moments dans la vie comme ça où on a l'impression que tout se ligue contre nous et puis voilà, c'est juste un moment difficile à passer et puis on passe à autre chose. Mais il se trouve qu'on la découvre à ce moment-là et elle sait qu'il faut qu'elle agisse. Et par un concours de circonstances, elle comprend que si on la croit... Si on croit qu'elle a un amant, elle devient tout à coup beaucoup plus sexy.
Bankable, comme disent les Américains.
Ouais. Beaucoup plus sulfureuse et que d'un coup, elle devient intéressante. Ce qui est paradoxal. Mais ça se passe souvent comme ça. Tout à coup, on a un truc à dire sur Diane. Diane, ça devient Diane la mémère. Ça devient Diane la mystérieuse, en fait.
Et
elle décide de jouer le jeu. Elle décide de jouer le jeu au moins pendant un temps. Mais effectivement, pour elle, c'était un jeu. Mais un jeu qui la dépasse.
Et qui prend une certaine ampleur, d'où votre film, d'ailleurs. Et le plaisir que vous avez d'apparaître pour vous, même si c'est furtif, d'apparaître dans vos films, c'est parce que le jeu est toujours fondamental pour vous.
Oui, parce que j'avais envie. Et puis surtout, j'avais envie de ces deux séquences avec Karine, quand on les écrivait avec Maria... Je prenais un malin plaisir à les lire à haute voix et ça faisait toujours marrer Maria. Et elle me dit, je sais très bien que tu vas le faire. Je dis, oui, fatalement, je vais pas chercher un acteur pour ce rôle-là. Et en plus, c'était une demi-journée de tournage, ce qui me prenait pas beaucoup de temps sur la réalisation, parce que avoir un rôle plus important en réalisant, c'est jamais simple.
Et justement, Philippe Lefebvre, vous mentionnez que réaliser et être aussi devant la caméra, c'est difficile. Comment vous fonctionnez en tant que réalisateur et comédien par rapport à vos comédiens? Est-ce que vous êtes très directif? Est-ce que vous laissez une place à l'improvisation?
Non, je ne laisse pas de place à l'improvisation parce que je n'aime pas ça en tant que spectateur. Je la sens, je vois bien qu'il y a une espèce de chose un peu floue qui se met en place. Donc à chaque fois, ça me sort un peu du film. Et puis en plus, j'avais deux acteurs qui n'étaient pas très clients non plus de l'improvisation. Donc, et puis voilà, ils ont aussi accepté pour, m'ont-ils dit, pour la qualité des dialogues. Donc ils n'avaient pas envie d'improviser. La seule chose qui a été improvisée, c'est François Berléand à la fin de la séquence où il se met à parler des cheveux de Franck Dubosc. C'est la seule chose qui a été improvisée, mais... En fait, en faisant plusieurs prises, on a cadré cette improvisation, donc qui est devenue beaucoup plus précise, en fait. Et ensuite, sur la direction d'acteur, moi, j'ai une idée assez précise de ce que je veux, la direction narrative de l'histoire, mais évidemment, je suis toujours preneur des propositions et des interprétations des acteurs. Parfois, quand je sens qu'il y a une idée qui est pas très bien perçue et bien comprise par l'acteur, je le dirige. Mais moi, en tant qu'acteur, je n'aime pas qu'on me parle trop entre les prises. Le travail a été fait avant, on s'est bien mis d'accord sur le sens, sur le ton. Entre les prises, il ne faut pas abreuver les acteurs d'indications. Moi, j'aime qu'on me dise plus vite, moins vite, plus fort, moins fort. Enfin, voilà, ce genre d'indications. Enfin, des choses très très précises et très très claires et
succinctes.
Et succinctes. Voilà. Écoutez, Billy Wilder disait, la direction d'acteur, c'est leur indiquer le chemin du studio. Ça veut dire Non pas que ça ne sert à rien, c'est que si on a bien fait son casting et si on a bien préparé avant, la direction d'acteur, c'est...
Voilà, ça coule de source.
Ça coule de source.
Mais je pensais aussi à ça par rapport à Clotilde Corot, qui est aussi là dans un rôle inhabituel pour elle. Et vraiment, c'est truculent de la voir. Et là, c'est vraiment tout dirigé, il n'y a pas d'improvisation.
Ah non, là, c'est très, très écrit. C'est très écrit. Toutes les métaphores autour des voitures, c'est très écrit. Alors, le personnage de Clotilde Corot, d'abord, le personnage vient d'un article que j'avais vu dans la presse disant que les constructeurs d'automobiles de luxe cherchaient à ce que ce soit des femmes qui dirigent les concessions, parce qu'ils avaient remarqué qu'un homme à qui une femme disait que cette voiture lui allait bien,
elle la vendait.
Et elle la vendait. c'est assez basique, un homme. Hein,
psychanalyse, voilà. Mécanique.
Il se voyait déjà séduire et
séduisant
au volant de cette voiture. Et je me disais, ce serait marrant qu'elle dirige une concession de luxe. Et de là est née les métaphores autour des voitures.
Et en
tout cas, j'adore l'actrice Clotilde Corot que j'avais rencontrée il y a très longtemps, avec qui j'avais tourné dans le premier film de Guillaume Canet, d'ailleurs, mon idole, et qui est une actrice très très singulière et qui je crois, d'après ce qu'elle m'a dit, s'est régalée avec ce personnage qui est un peu Desperate Housewives.
Un peu, mais elle s'en sort pas mal.
Ouais.
Pour revenir à Nouveau Départ, c'est quand même, il y a de nombreux comédiens secondaires. Est-ce que c'est plus ardu pour vous, pour diriger, ou comment ça se passe?
Les comédiens secondaires?
Oui, parce qu'il y a les deux comédiens principaux, et puis après, on ne va pas dire que c'est un film complètement choral, mais il y a de nombreuses personnes.
Ouais.
Quelle est la difficulté?
La difficulté, c'est quand les acteurs sont un peu frustrés de leur partition. Pour moi, il y a évidemment les rôles principaux, mais si j'écris un rôle qui soit secondaire, voire au-delà, je veux toujours qu'il ait quelque chose à jouer. Quelque chose à jouer. Ça, c'est mon tempérament d'acteur qui me dit instinctivement, même cette petite séquence, j'ai envie de la jouer. Je sais ce qu'il y a à défendre, je sais ce qu'il y a à faire. Et si c'est bien écrit, si on a pris le temps avec ma co-scénariste de fignoler ces personnages, il n'y avait pas de frustration chez les acteurs. Donc ils venaient tous avec plaisir jusqu'au dernier nouveau personnage qu'on voit à la fin, qui est neurochirurgien. On prend beaucoup de plaisir. J'écris pas de rôle utilitaire, en fait.
Je ris parce que vous m'avez beaucoup amusé avec la médecine, c'est les QCM. Faut pas se laisser impressionner. ça m'a aidé par rapport.
Je ne laisse pas impressionner, la médecine, c'est que les QCM.
Ouais, c'était bien formulé, bien résumé. Pour revenir à votre présence ici, vous êtes donc pour le festival du film francophone à Bienne. Quelle est votre relation avec le cinéma suisse, avec la francophonie dont on fait partie? Parfois, on l'a oublié, mais on en fait partie.
J'aime la francophonie parce que j'aime l'idée d'une communauté, en fait, sans frontières. J'aime l'idée qu'on peut avoir une culture différente et parler la même langue. D'ailleurs, la Suisse n'est pas que la francophonie, donc c'est aussi sa richesse. J'aime l'idée d'un ensemble, en fait. Je suis comme le personnage d'Alain, en fait, qui est très bien concertiste d'orchestre philharmonique. On est bien dans un ensemble.
Il y a aussi une sorte de symbiose, il y a quelque chose qui nous porte.
Ouais, parce qu'on se sert de la richesse des autres.
Réciproquement.
Ouais.
Et pour revenir donc à votre présence ici au festival, vous étiez à Angoulême, le public était enthousiaste.
Ah, c'était formidable, Angoulême. C'était un complexe de 11 salles remplies juste pour Nouveau Départ. Donc on a présenté dans les 11 salles. Bon, ce qui fait que quand on est arrivé dans la dernière, ils attendaient depuis 1h10. Mais ils nous en ont pas tenu rigueur et on a assisté à la projection dans la dernière salle. Et c'était vraiment agréable parce qu'on les entendait rire. Voilà, on a vraiment...
L'immédiateté de réaction.
Ouais. Ça a été extrêmement chaleureux. Voilà, une standing ovation pour une comédie, c'est assez rare pour le souligner. Donc, c'était vraiment très, très agréable. Et puis, c'est un public de cinéphiles qui vient en curieux parce que quand on arrive au Festival d'Angoulême, le film n'a aucune notoriété. Les bandes annonces n'ont pas encore circulé, donc c'est vraiment un public curieux et ça c'est vraiment très agréable.
Ça sera le cas bien, on vous le souhaite vivement, en tout cas on sait qu'ils sont déjà à l'attente, à l'affût. Est-ce que vous accompagnez votre film, est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire ou est-ce que vous avez besoin de repos entre chaque projet?
Écoutez, non, là je suis pas du tout en train d'écrire. Je viens de finir un autre film que j'ai réalisé pour la télévision qui sera en sélection au Festival de La Rochelle de télévision demain. Donc demain matin, je pars pour La Rochelle pour présenter cet autre film. Un film dont je suis extrêmement fier parce qu'il a été écrit par mon amie Maria Pourchet sur Romain Gary. Sur Romain Gary, époque Romain Gary et Émile Ajar. Et c'est la première fois que je réalisais un film d'époque, puisque les années 70, ben, c'est une autre époque. Et ça m'a vraiment passionné, parce que je connaissais l'histoire du pseudonyme d'Émile Ajar, qui avait inventé Romain Gary, mais je ne connaissais pas en fait, le fond de l'histoire, son neveu, tout ça, et ça m'a passionné.
Voilà, on aura l'occasion de découvrir ce film à la télévision.
Oui, pour France Télévisions, France 2.
Justement, c'est une de mes questions avant de vous quitter. Quand vous écrivez pour la télévision et pour le cinéma, j'imagine que les conditions sont quand même différentes par rapport à l'attente déjà, ne serait-ce que des producteurs.
Les conditions sont différentes. D'abord, c'est pas les mêmes budgets. Mais moi, je vois pas de différence quand je fais un film pour la télévision ou pour le cinéma. Je vois pas de différence ni dans mon implication, ni dans ma façon de le faire. C'est juste que c'est le traitement des choses qui est différent entre le cinéma et la télé. On est sans doute parfois un peu plus explicatif à la télé qu'au cinéma.
Ben voilà, c'était le mot de la fin. Et je retiens la citation de Billy Wilder. Merci Philippe Lefebvre.
Merci à vous.
Et bon succès.
Merci beaucoup.